Bonjour et bienvenue sur les podcasts Solency, un espace de discussion qui illustre par la pratique les formations du programme Solency de Kerialis. 15 minutes d'éclairage, de témoignages, de conseils, de bonnes pratiques. Par les avocats et pour les avocats. Aujourd'hui, nous traitons du thème large et riche de la digitalisation. Pour ça, nous recevons Arnaud Touati. Bonjour Arnaud Touati.
Bonjour.
Arnaud Touati, vous êtes avocat, cofondateur et associé du cabinet Hashtag Avocat. Merci d'avoir participé au programme de formation Solency de Kerialis. Première question, la digitalisation au sein du cabinet, qu'est-ce que c'est ?
Principalement, selon moi, c'est le fait donc, d'utiliser des outils qui soient des outils numériques, de s'approprier les outils numériques dans sa pratique de tous les jours. Alors, je dirais qu'il y a deux axes de développement. Quand on parle de digitalisation, il y a premièrement la digitalisation de la relation avec le client, qui est un sujet très important, la manière avec laquelle on va pouvoir communiquer avec le client et rendre la relation plus fluide, plus facile. Et puis, il y a la partie digitalisation en interne, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va traiter les dossiers, les outils qu'on va être en mesure d'utiliser pour gagner du temps, pour être plus flexible et pour pouvoir travailler sur des tâches qui soient à plus forte valeur ajoutée.
On ne parle pas de la digitalisation de l'exercice de l'avocat en soi.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont permettre à l'avocat de travailler plus efficacement et il y a une partie de ce travail-là aussi qui va être réalisée de manière digitale au lieu d'être réalisée de manière physique. Je prends un exemple. Et le confinement a accéléré ce processus, même s'il avait déjà été amorcé pour un certain nombre de cabinets depuis un certain temps. La plupart des rendez-vous qu'on réalise au sein du cabinet sont des rendez-vous en visioconférence, par exemple. Donc typiquement, ça veut donc dire que certes, on utilise un outil, mais que ça a changé la pratique de l'avocat, puisque on va être à distance et on ne va pas se voir dans le cadre d'un rendez-vous physique. Donc les deux.
On parle souvent en ce moment de la déshumanisation de la justice. Est-ce que, selon vous, ça y participe ?
Alors, je vais vous dire, j'entends souvent, effectivement, ce concept de déshumanisation. La première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que si on prend le numérique dans sa globalité, on se rend compte qu'il y a des axes pour lesquels, en réalité, on n'est pas du tout dans la déshumanisation, mais on est dans le rapprochement avec le justiciable. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est l'open data, l'accès à des décisions de justice, à énormément de décisions de justice auxquelles nous n'avions pas accès avant, ce qui permet, encore une fois, aux justiciables de pouvoir aussi s'informer. Ça permet à l'avocat, mais ça permet aux justiciables d'avoir accès à une base d'informations auxquelles ils n'avaient pas accès par ailleurs. Et puis, il y a également un certain nombre de legal tech qui ont permis, soit par l'apport d'informations, d'améliorer l'accès aux droits d'un certain nombre de nos justiciables qui, concrètement, n'avaient pas forcément accès à la matière juridique aussi facilement avant. Donc, je veux dire, voilà, c'est que les nouvelles technologies, la digitalisation, elle a amené aussi une certaine forme d'humanisation, de rapprochement. Pour autant, il est évident qu'il y a, dans un certain nombre de cas, un risque potentiel de déshumanisation, je ne sais pas, mais en tout cas, une sorte de distance qui se crée entre le justiciable et la justice. Il y a des pays comme la Chine, par exemple, qui, depuis un certain temps maintenant, font du procès à distance. On voit que c'est un sujet. Est-ce que nous, à un moment ou à un autre, on va aller vers cela ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne le souhaite pas. On est de plus en plus, et c'est tant mieux, vers des procédures de conciliation, de médiation. Parfois aussi, on essaye d'éviter les procédures judiciaires au maximum. Il faut effectivement, en tout cas, que ça se fasse systématiquement dans la relation entre le justiciable et la justice et que ça ne se fasse pas au détriment du justiciable.
Donc, dans digitalisation, on parle de faciliter les rapports aux autres et accélérer peut-être parfois les procédures, mais on ne parle pas de remplacer l'avocat par un robot.
Ça aussi, c'est un mythe qu'on entend beaucoup quand on travaille sur ces problématiques-là. Que ce soit à l'incubateur du barreau de Paris, pour ma part, ou même en discutant avec un certain nombre de nos confrères, on entend souvent cet argument qui consiste à dire « voilà, moi, demain, je crains d'être remplacé par le robot ». D'ailleurs, soit dit en passant, ça ne concerne évidemment pas que la sphère juridique, mais en réalité, c'est une problématique générale de notre société à l'heure d'aujourd'hui. Bon, ok. Maintenant, si on passe cette logique-là, quand on parle des outils numériques, les outils à l'heure d'aujourd'hui n'ont pas vocation à remplacer l'avocat. Ils ont vocation à l'aider. Je vais prendre un exemple. Demain, vous êtes avocat en droit des sociétés. Vous devez travailler pour un client, rédiger des statuts. L'avocat qui n'utilise pas d'outils numériques, bon, il va procéder assez classiquement à la rédaction de ses contrats. D'ailleurs, souvent, évidemment, il ne partira pas de zéro, il partira sur des modèles avec lesquels il est amené à travailler. Très bien. L'avocat numérique, lui, va automatiser les modèles et en réalité va gagner du temps dans l'exercice de sa mission. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en réalité, il va gagner du temps pour pouvoir se focaliser davantage sur la relation avec le client. On entend de plus en plus, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, le soft law, le fait d'aller passer du temps avec le client pour discuter avec lui, pour comprendre exactement ce qu'il veut. Autrement dit, moi, demain, j'ai une prestation de 3 heures avec un client, je préfère passer 30 minutes à rédiger le document parce que je l'ai automatisé et 2h30 à discuter avec le client pour comprendre exactement ce qu'il veut et vers où est-ce qu'il souhaite aller, plutôt que de passer 2h30 à rédiger le document et 30 minutes à la va-vite à discuter avec lui, ou alors à passer encore plus de temps à discuter avec lui, mais in fine à ne pas avoir une opération qui est rentable au final.
L'automatisation participe donc quelque part de la digitalisation du cabinet.
Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, on a selon moi deux types de digitalisation, deux axes de digitalisation pour être plus précis. Il y a la relation avec le client et puis il y a l'interne, c'est-à-dire la manière avec laquelle vous traitez les dossiers. Et quand on parle d'automatisation, c'est donc la digitalisation interne de votre cabinet. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de classer en réalité les différentes datas, les différentes données pour pouvoir les utiliser de manière plus optimisée possible. C'est tout un tas d'outils qui vont faire que votre activité va être facilitée.
Le CRM, nous en avions parlé justement dans le podcast qui traitait de la prospection. Et on voit d'ailleurs que tout est lié, prospection, digitalisation. Vous, chez Hashtag Avocat, quels sont les outils, les méthodes de digitalisation que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place?
Alors, s'agissant de la relation avec le client, nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de rendre la relation la plus fluide possible. Vous avez maintenant des clients de cabinets d'avocats, qu'on le veuille ou non, qui ont comme référentiel leur expérience utilisateur qu'ils peuvent avoir dans une relation commerciale classique. Et donc, si vous voulez, il a fallu qu'on essaye, autant que possible, de leur redonner dans la relation avec l'avocat ce qu'ils peuvent connaître par ailleurs dans des domaines qui sont des domaines plus traditionnels. Je prends un exemple, les outils qu'on utilise. Il y a une problématique qui est une problématique de confidentialité, on a quand même une déontologie, donc il faut la respecter. Pour autant, on essaye de trouver des outils qui à la fois respectent la déontologie et qui en même temps permettent de fluidifier les rapports et d'éviter que à chaque fois les contacts se fassent de manière traditionnelle par email ou par téléphone. Donc ça, c'est l'exemple client. D'ailleurs, si on veut rajouter encore d'autres exemples, vous parliez tout à l'heure du référencement, on a une stratégie qui est une stratégie, alors le terme anglo-saxon, mais une stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va régler les leads entrants, les prospects, que ce soit par du référencement payant, que ce soit par du référencement gratuit, donc le fameux SEO, SEA, pardon encore pour cet anglicisme, que ce soit par potentiellement l'utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Ça, c'est le vecteur client, si vous voulez. Et puis à côté, il y a, comme je le disais, le fonctionnement du cabinet. Ça veut dire des outils en matière d'automatisation. Ça veut dire de la visioconférence. Alors nous, on n'a pas attendu le confinement pour découvrir un certain nombre d'outils. Encore une fois, dans le respect de la déontologie, mais il y en a un certain nombre, il faut en profiter. D'accord ? Et puis, ça veut dire des outils qui vont permettre, par exemple, de faire de la signature électronique. Le CNB propose des outils de ce type-là. Donc, il faut utiliser les outils qu'on a à sa disposition et essayer de s'approprier dans sa pratique professionnelle l'utilisation du digital.
Mais quand vous accueillez un nouvel associé ou un nouveau collaborateur au sein du cabinet, est-ce que vous avez mis en place un protocole de formation pour que le nouvel arrivant puisse s'approprier l'ensemble de vos méthodes et l'ensemble de vos outils ?
Alors c'est une très bonne question. Je dirais déjà qu'on est avantagé par le secteur dans lequel on exerce, puisque exerçant majoritairement dans le secteur du numérique, par définition, les collaborateurs qui nous rejoignent, enfin logiquement, sont des gens qui ont déjà à la fois des connaissances et des appétences en matière de nouvelles technologies. Ça, c'est un premier point. Pour autant, le sujet de la formation, que ce soit d'ailleurs de nos équipes ou des avocats en général, hein, est un sujet, à mon avis, qui est absolument majeur. Il y a un travail, j'en profite pour le dire, qui est effectué par l'école de formation du barreau, et notamment ce qu'on appelle le lab de l'EFB, qui est absolument formidable et qui permet de commencer à apprivoiser toutes les technologies par des élèves avocats et donc par des gens qui, demain, seront nos futurs confrères. Ça, c'est un premier sujet. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, chaque cabinet est différent et qu'il faut le former. Et donc, naturellement, il y a tout un travail qui va se faire lorsque le collaborateur va arriver pour pouvoir lui montrer un peu quels sont les outils du cabinet, lui expliquer un petit peu le logiciel du cabinet, le CRM, les outils d'automatisation, etc. etc. Mais c'est certain qu'on part aussi avec une base, que ce soit en termes d'éducation pour les élèves avocats ou que ce soit pour ce qui nous concerne, des gens qui effectivement ont nécessairement une appétence pour ces sujets.
Donc c'est en fin de compte un peu de temps en plus à passer dans la formation pour du temps gagné derrière dans l'exercice quotidien de la pratique et du métier.
Absolument. Je vais prendre l'exemple d'un outil que je ne citerai pas, mais que voilà, beaucoup sont amenés à utiliser, qui permet de gagner un temps absolument considérable en matière de contentieux quand on fait de la recherche, de jurisprudence et quand on a un dossier à préparer. J'ai un nouveau collaborateur qui a intégré le cabinet dans le pôle de contentieux il y a quelques semaines de cela. Il a été formé par les équipes sur cet outil et ça a permis extrêmement rapidement d'avoir des dossiers qui ont été traités beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc non seulement c'est mieux pour le client, c'est également mieux pour le cabinet parce qu'il y a quand même une notion de rentabilité qui doit être respectée. Et donc tout le monde y gagne. Le collaborateur gagne du temps sur des tâches qui sont chronophages et inintéressantes. Le client a accès à ses conclusions plus rapidement. Et pour ce qui concerne le cabinet, il y a un gain de productivité qui est évident.
J'aurais évidemment aimé vous poser la question de l'intelligence artificielle. Ça nous prendrait un peu de temps et peut-être qu'on pourra consacrer un autre podcast à ce sujet. Il me reste une dernière question, en revanche, c'est le conseil que vous donneriez à un avocat qui débute et lance son cabinet. Quelles sont les pistes de digitalisation que vous pourriez lui conseiller? Et deux, l'avocat qui a déjà lancé son cabinet et qui veut prendre le tournant du numérique, du digital.
Si vous êtes un avocat, vous êtes un jeune avocat et que vous souhaitez lancer votre cabinet, je pense qu'il est très difficile de faire fi des nouvelles technologies. Je pense que c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Pour autant, c'est certain qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels il est plus facile de faire appel à certains outils que d'autres, c'est évident. Mais je pense que c'est indubitable. Maintenant, on est obligé, si vous voulez, de passer par là, si on veut, d'une certaine façon, faire évoluer aussi sa pratique professionnelle. Donc concrètement, si demain, on a un jeune avocat qui se lance, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire, à mon sens, et qui sont primordiales. La première, c'est se former sur les sujets. Alors, vous allez me dire comment. Il y a, à l'école de formation du barreau, tout un tas de formations qui sont données, cette fois, non pas à des élèves avocats, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais à des avocats, sur des sujets qui sont des sujets numériques. Il y a l'incubateur du barreau de Paris, alors je suis jugé parti là pour le coup puisque je suis membre, qui est quand même une institution qui est ordinale, enfin qui fait partie de l'ordre des avocats et qui effectivement travaille sur ces sujets numériques depuis quand même très longtemps. Sous la houlette de certains de leurs membres qui effectivement sont très impliqués là-dedans. Donc ça veut dire que ça vous permet d'avoir, par les événements notamment, voire en intégrant cet incubateur, d'avoir accès à ces réflexions et à ces outils aussi qui sont très intéressants. C'est le premier sujet. Et puis le second, qui n'est pas forcément d'ailleurs alternatif, qui peut être cumulatif, c'est le fait de s'intéresser à l'écosystème Legal Tech, parce que si vous voulez, ça bouge énormément. C'est un écosystème qui a évolué de manière exponentielle depuis quelques années. Il y a des outils partout, sur tous les sujets. Donc, il faut être curieux, quoi. Il faut s'intéresser. Il faut regarder ce qui se passe. Il faut assister aux événements. Il faut demander des tests. Il faut discuter. Il faut échanger. Il faut s'imprégner de ce sujet. Et je pense qu'il faut en faire un cheval de bataille pour les avocats. Pour faire évoluer une profession qui peut-être a un peu plus de mal que les autres à le faire.
Merci Arnaud Touati, merci d'avoir participé à cet échange sur cette thématique de la digitalisation. Vous pouvez retrouver le module e-learning qui a été fait à cet effet sur la plateforme Solency. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain podcast. À très vite.